Spotkania europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromić z Europy.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Bonjour, bienvenue au Carrefour d'Europe, bienvenue à Berlin où le règne d'Angela Merkel est désormais remis en cause. Laminée par des revers électoraux successifs, Angela Merkel a choisi de précipiter sa sortie politique. Si elle souhaite terminer son mandat de chancelière, elle ne briguera pas une nouvelle présidence à la tête de la CDU. La succession est ouverte et il n'est pas certain qu'Angela Merkel pourra rester à la tête du pays jusqu'en 2021. L'après-retraite de la chancelière marque la fin d'une époque. Elle reflète aussi les profonds bouleversements politiques qui secoue l'Allemagne depuis quelques années. Les partis de gouvernement conservateurs et sociaux-démocrates s'effondrent, tandis que l'extrême droite s'enracine durablement dans le paysage. Cette semi-retraite d'Angela Merkel va aussi affaiblir sa position en Europe, à un moment où l'Union européenne traverse une crise existentielle. Nous avons posé nos micros au Novotel Mitte de Berlin et je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Sébastien Haas.
Bonjour.
Vous êtes conseiller politique et ancien cadre de la CDU. Éric Haseux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président d'une section locale du SPD à Berlin, d'ailleurs tout près d'ici, à Mitte. Romain Schnitt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du département d'histoire contemporaine à la Fondation Heinrich Böll. Et deux confrères, Thorsten Knuff, bonjour. Vous êtes journaliste ici à Berlin. Bonjour.
Bonjour.
Et bien sûr, Pascal Thibault, correspondant de RFI en Allemagne, que tous les auditeurs de RFI connaissent très très bien.
J'ai toujours eu l'ambition d'exercer mes mandats politiques avec dignité et de les abandonner un jour avec la même dignité. Je dirige depuis plus de 18 ans la CDU et je suis depuis 13 ans chancelière de la République fédérale. J'ai dit dans le passé que je n'étais pas née chancelière et je ne l'ai jamais oublié. Je ne serai pas candidate à la présidence de la CDU lors du prochain congrès de notre parti début décembre. Ce quatrième mandat en tant que chancelière est le dernier. Je ne brigue pas d'autres fonctions ensuite. Je suis prête à continuer ma mission à la tête du pays jusqu'au terme de la législature actuelle en 2021.
Angela Merkel, c'était lundi dernier lors d'une conférence de presse. Alors, Thorsten Knuff, le mauvais résultat de l'élection en Hesse, qui fait suite à celui de la Bavière, a eu raison de la détermination politique d'Angela Merkel. Ça a été la petite goutte d'eau qui l'a fait prendre cette décision historique.
Oui, tout à fait. Je pense que Angela Merkel a clairement vu que sa base de pouvoir s'effondre de plus en plus. On sait très bien que l'année dernière, avant les élections, elle a longuement réfléchi s'il sera sage de se représenter comme chancelière.
Et elle avait dit oui.
Elle avait dit oui, mais on voyait de plus en plus qu'elle n'a plus la force comme autrefois.
Alors, Pascal Thibault, on va peut-être resituer un peu le contexte politique dans lequel évolue l'Allemagne. L'un des faits marquants, c'est le recul historique des partis de la grande coalition, CDU, CSU d'un côté, et puis les sociaux-démocrates du SPD.
Oui, effectivement, on a vu dans ces deux élections régionales cet automne, à la mi-octobre en Bavière, où ce n'était pas le parti de la chancelière, mais la CSU, l'allié bavarois traditionnel qui était candidat, et en Hesse dimanche dernier avec la CDU, d'Angela Merkel, avec un de ses fidèles qui se présentait, que les deux partis membres de la grande coalition étaient sanctionnés, puisque dans les deux constellations, eh bien, le parti conservateur qui était en lice et le parti social-démocrate ont, à eux deux, perdu 20% des voix, ce qui évidemment est énorme, et ce qui est un témoignage, une illustration de l'impopularité de cette grande coalition au pouvoir depuis le printemps, qui a plutôt fait parler d'elle à travers des querelles, des bisbilles, qu'à travers une gestion sereine des affaires.
Et puis qu'il y a eu énormément de mal à se mettre en place.
Elle a aussi énormément eu de mal à se mettre en place. Au plus exactement, oui, effectivement, l'accouchement d'un nouveau gouvernement a été laborieux, puisqu'on a d'abord négocié une autre coalition, une coalition dite jamaïcaine, entre les conservateurs, les chrétiens-démocrates, les libéraux et les verts, qui finalement n'a pas vu le jour, d'où la nécessité de remettre sur la table une troisième grande coalition depuis l'arrivée au pouvoir d'Angela Merkel il y a 13 ans au pouvoir.
Alors, 13 ans au pouvoir et 18 ans à la tête du parti, la CDU. Sébastien Haas, c'est assez rare, et j'imagine que vous allez la saluer, une chancelière tout de même encore à la tête de son pays, qui dit je vais quitter le pouvoir.
Oui, en effet, Angela Merkel n'a pas arrêté de nous surprendre. Mais elle a d'ailleurs dit lundi que, au fait, la décision qu'elle a présentée, qu'on a pu écouter, était une décision à laquelle elle songeait depuis cet été. En effet, dans l'histoire de la République fédérale d'Allemagne, tous les chanceliers ont loupé leur sortie. Et Angela Merkel est en train de gagner son pari, c'est de quitter le pouvoir en dignité.
Alors Angela Merkel, Thorsten Gulluf, a choisi la demi-mesure. Elle ne briguera pas la présidence du parti, mais elle entend rester chancelière jusqu'aux prochaines élections générales. C'est en 2021, c'est loin.
Oui, c'est loin et je ne suis pas du tout convaincu qu'elle va finir le mandat.
Pourquoi ?
Bon, ça dépendra des circonstances, bien sûr. Ça dépend largement de la personne qui sera élue à la tête du parti. Et Mme Merkel a dit qu'elle ne brigue pas d'autres fonctions après son mandat de chancelière, mais moi, personnellement, j'excuse toujours pas qu'elle saisisse le moment venu la présidence du Conseil européen, qui est actuellement assurée par M. Donald Tusk.
Vous imaginez qu'elle... Parce qu'elle a dit qu'elle ne briguerait aucune fonction nationale ou européenne.
Oui, elle a
elle
dit ça.
Elle peut changer d'avis, elle a déjà changé d'avis.
Absolument. Hein. Donc, ceux qui connaissent Angela Merkel savent très bien qu'elle peut changer d'avis d'un moment à l'autre. Et en plus, la présidence du Conseil européen n'est pas une fonction pour laquelle on porte candidature d'une manière active. Donc, il faut la saisir au moment venu.
Alors, autour de cette table, il y a eu des sourires qui ne venaient pas de vous, Sébastien Haas, qui représentait ici la CDU. C'était le sourire d'Éric Haase du SPD et puis de Roman Schmidt de la Fondation Heinrich Böll. Éric Haase, vous doutez de la capacité de la chancelière à rester jusqu'en 2021 ?
Bah là, il est vrai qu'on est dans une sorte de vacuum politique. On vient d'entendre qu'elle est prête à rester jusqu'à la fin de son mandat en 21, ce qui permet à son parti à se préparer lors du congrès fédéral de la CDU en décembre. On verra.
Ça qui c'est sera, demain, c'est dans un mois.
Justement, qui sera son ou sa successeur. Et dépendant de ce choix des membres de la CDU, elle va rester peut-être encore un peu plus loin ou pas. Ceci dit, c'est très intelligent parce que maintenant, tous les partis peuvent se préparer à ce vrai changement. Donc là, c'était le premier pas, le deuxième est à franchir. Et voilà, on a des avantages, nous tous, à ce qu'elle reste encore quelques mois.
Roman Schmidt, sur ce thème, la chancelière va-t-elle rester jusqu'en 2021 ?
Moi, je ne le crois pas, mais parce que je suis assez d'accord avec ce que disait Thorsten tout à l'heure, c'est que tout dépend de son successeur à la tête du Parti conservateur en Allemagne. Donc, si c'est un antagoniste historique, comme on l'a vu, on va certainement en parler tout à l'heure, il est très peu probable qu'elle restera jusqu'à la fin de son mandat. Si ça sera l'autre candidate dont on va sans doute aussi parler tout à l'heure, elle va peut-être rester. Voilà. Donc, ça, c'est la question.
Roman Schmidt, vous avez fait ce qu'on appelle un teasing. Hein. Vous avez parlé d'un successeur possible, d'un successeur qui ne serait pas très sympathique pour elle. Il y a trois, Pascal Thibault, trois successeurs potentiels. Deux hommes et une femme. On commence par la femme, par Anneke...
AKK dans la version courte, c'est plus facile pour les étrangers, mais aussi pour les Allemands.
AKK.
Voilà. AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer. Il y a sur le papier six candidats, on l'oublie un peu vite, ce qui est absolument un record absolument inédit et historique dans un parti où d'habitude, de toute façon, on est habitué à réélire le président ou la présidente sortante. Il y a trois candidats qui étaient déjà en liste avant même qu'Angela Merkel annonce qu'elle renonçait, mais qui sont des inconnus et qui n'ont aucune chance. Restent donc trois candidats importants, la secrétaire générale, Annegret Kramp-Karrenbauer.
Il faut peut-être commencer à prononcer son mot correctement. Je dis ça pour les journalistes français, à commencer par moi.
Oui, je suis très impatient d'entendre la façon dont ils le feront. connaissant la façon dont certains noms dans le passé ont pu être prononcés. C'est une fidèle des fidèles d'Angela Merkel. Elle vient de la Sarre, petite région frontalière de la France. C'est une francophone, francophile, ce qui peut être un atout aussi pour les relations franco-allemandes. Elle a été nommée, elle a été élue secrétaire générale du parti au printemps, il y a quelques mois seulement, et elle a depuis enraciné sa présence à travers notamment de nombreuses rencontres avec la base, base qui un peu avait des états d'âme sur un certain nombre de dossiers, notamment la question migratoire. Et donc elle a un petit peu ces rencontres, le dialogue ont, je crois, aussi contribué à l'asseoir au sein du parti, mais elle n'est pas seule, effectivement, puisqu'il y a deux autres concurrents sérieux.
Le deuxième, d'un point de vue français, on dirait que c'est un frondeur. Et on découvre qu'il y a un peu un frondeur à la CDU, ce qu'on ne savait pas forcément. Il s'appelle Jens Spahn. Et je vais laisser à Eric Hazel le regard qu'il porte sur Jens Spahn, qui est aujourd'hui ministre de la Santé, qui est le plus jeune des trois candidats, à peine 40 ans. Un frondeur, c'est un mot qu'on a beaucoup employé chez les socialistes français. Votre regard sur Jens Spahn, et puis évidemment le troisième, je vais le laisser à Sébastien Haas.
Moi, je serais très content de voir Jens Spahn à la tête de la CDU.
Pourquoi donc ?
Il est vrai que les deux anciens Parti populaire CDU et SPD se sont approchés successivement d'une manière à ce que les électeurs se sont posé la question à savoir quelle est la différence. Je vote social-démocrate ou conservateur.
Ça, aucune, évidemment, on va y revenir.
Aucune différence. Jens Spahn, lui, veut se différencier des autres. Et en se différenciant de la position d'Angela Merkel, il a successivement gagné du terrain au sein de la CDU. Ce qu'il faudrait faire donc au sein du SPD, des sociaux-démocrates, c'est également se différencier donc de l'autre. Donc,
on va y revenir
très
tard,
content
on va,
de revoir un ping-pong politique en Allemagne.
Sébastien Haas, le troisième candidat potentiel, celui dont on dit qu'il a le plus de chances, s'appelle Friedrich Merz. Il est totalement inconnu pour un public francophone et je me demande même dans quelle mesure il reste connu pour les électeurs allemands, car on dirait en français c'est un cheval de retour. Il a abandonné la politique il y a une dizaine d'années et il revient, semble-t-il, en force. Qui est ce Friedrich Merz ?
Oui, en effet, Friedrich Merz, j'ai le premier à être surpris à le redécouvrir à la une du Bild. Ça faisait bien longtemps qu'on ne l'avait pas vu. 62 ans, un ancien acteur politique de premier plan à la fin des années 90, début des années 2000.
Quelle était sa fonction la plus importante?
Il était président du groupe parlementaire de la CDU-CSU.
C'est important.
C'est important. C'est le premier primus inter pares des députés CDU. Bon, il s'est brouillé avec Angela Merkel en 2002, après les élections législatives, parce que c'est Angela Merkel qui souhaitait reprendre également la présidence du groupe parlementaire. Certains disent qu'il lui a jamais pardonné, qu'il porte en lui un certain sentiment de revanche. Il a quitté le monde politique en 2009 et s'est reconverti dans le privé. Cela étant dit, il lui reste une base de supporters très solide pour être un économiste très réputé, quelqu'un qui va droit devant, très éloquent, et qui, en se présentant hier devant le collège des journalistes réunis, a fait une sacrée impression.
Alors justement, Pascal Thibault, vous étiez, et j'y étais aussi d'ailleurs, devant ce retour de Friedrich Merz, devant une salle comble, et vous m'avez confié, la dernière fois qu'elle était aussi pleine, c'était pour Angela Merkel. Donc au moins un succès d'estime de Friedrich Merz.
C'était effectivement la foule des grands soirs dans cette salle de presse, qui est sans doute un reflet de l'effet de surprise dont parlait Sébastien Haas, avec le retour de l'ennemi juré, si on fait un peu dans la caricature d'Angela Merkel, et puis aussi le coup médiatique que ça signifie aussi. Et évidemment, quelqu'un qui a un profil politique qui se distingue sensiblement de celui d'Angela Merkel, plus à droite, plus conservateur, plus libéral, plus conservateur sur des certain nombre de valeurs sociétales. Et on va voir si ce hype médiatique contribue. Ça peut être le cas, parfois, le rôle des médias à renforcer sa position en amont de ce congrès début décembre, ou bien si d'autres concurrents auront le dessus.
Alors, il faut quand même expliquer, on entre un peu dans la politique germano-allemande, mais comment on désigne un président de parti à la CDU ? Sébastien Haas, vous, en tant que militant du CDU, vous savez bien comment ça se passe. Et c'est, pour un Français, une drôle de façon de déléguer le président du parti qui, lorsqu'il est à la tête de la CDU, a toutes les chances de devenir le chancelier.
Oui, en effet. C'est vrai que les systèmes sont tout à fait différents entre la France et l'Allemagne. Vu le système législatif, la manière de laquelle nous désignons le Parlement, ça donne un poids énormément important au parti. Donc, on dit toujours que celui qui tient le parti, c'est la même chose pour le SPD que pour la CDU, et celui qui est normalement appelé à se présenter en tant que candidat pour la chancellerie.
Mais vous, en tant que militant CDU, vous n'allez pas déposer un petit bulletin de vote qui va départager AKK, Jens Spahn ou Friedrich Merz?
Non, en effet, la structure de la CDU, ce qui d'ailleurs fait sa force depuis plus de 70 ans, c'est la puissance des fédérations. C'est un système assez subsidiaire. Chaque fédération locale désigne un délégué. Il y en a 1001, 1000 pour l'Allemagne et 1 pour Bruxelles, qui, au moment du congrès, vote pour le renouvellement de l'équipe dirigeante, pour les motions qui sont présentées. Donc c'est un véritable système de délégués qui est mis en place et qui est inscrit dans les statuts depuis la fondation de
la nuit des temps.
Oui, c'est dans les statuts, ça n'a jamais été remis en cause jusqu'à présent. En effet, on pourrait se poser la question aujourd'hui s'il serait pas plus moderne. Les Verts l'ont fait, le SPD a introduit
des référendums
internes sur même la question s'il faut rentrer dans un gouvernement. Bien sûr que c'est suivi de manière très attendue, mais bon, on est à 5 semaines du congrès, et connaissant mon parti, ça m'étonnerait qu'on change les statuts d'ici là.
Ça veut dire que c'est quand même un système, allez, je vais enlever le mot, un peu féodal, non?
Non, parce que les délégués qui se présentent à Hambourg et qui voteront auront derrière eux quand même des discussions internes, locales, au niveau de leur fédération, qui vont être d'une grande intensité. Il y aura des réunions des militants à la base, ils discuteront avec leurs délégués ce qu'ils doivent faire, donneront leur avis, et ils partiront avec un mandat assez défini.
C'est vrai que ça paraît, vous qui connaissez bien la situation politique en France et la situation politique en Allemagne, par définition, c'est assez étrange ce système où finalement, c'est 1000 personnes qui vont désigner le président d'un parti susceptible d'être le chancelier de la plus grande puissance économique d'Europe.
Non, pas du tout. Je trouve ça tout à fait normal. Donc, c'est la démocratie interne des partis, et c'est comment fonctionnent presque tous les partis en Allemagne.
Éric Azoulay, vous n'êtes pas d'accord?
Je suis pas d'accord et d'accord en même temps, parce que notre système politique fonctionne ainsi. Ce sont aussi les seulement 600 à 700 députés du Bundestag qui éliront après le chancelier. Il n'est pas élu suffrage universel direct. Donc en fait, au sein des partis se reflète le système politique allemand. Ceci dit, il est vrai qu'on peut introduire, comme les Verts l'ont fait, comme nous l'avons fait, bien sûr, des doses de décisions populaires, que tous les membres ont un mot à dire.
Allez, un dernier mot sur l'élection du président du parti de la CDU.
Juste une précision, ces 1001 délégués qui viendront à Hambourg sont pas désignés par le siège du parti. Hein, c'est les fédérations locales qui nomment. Après, il y a des votes. C'est un processus de démocratie de base. Hein.
Mais est-ce que ces 1000 délégués sont porteurs d'un vote, c'est-à-dire en fonction de la fédération dont ils viennent, ils doivent voter pour celui qui a été élu dans la fédération, ou finalement le vote est secret, ils déposent en leur âme et conscience le bulletin qui leur fait plaisir?
Le vote est secret, évidemment. Ceci étant dit, tout délégué du Congrès devra des réponses, même à l'avance, hein, à ses militants, comment il voit les choses, qu'il veut faire. S'il voit qu'au sein de sa fédération locale, la majorité est une autre, il a de fortes chances à ce qu'il s'y plie.
Qui va succéder à Angela Merkel à la tête de la CDU? On va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. Et on se retrouve à Berlin dans 3 minutes, très exactement. À tout de suite.
Раскруча Европы.
Ставродромы της Европы.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Rebonjour Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Nous sommes toujours à Berlin où le règne d'Angela Merkel est désormais remis en cause. Laminée par des revers électoraux successifs, Angela Merkel a choisi de précipiter sa sortie politique. Si elle souhaite terminer son mandat de chancelière, elle ne briguera pas une nouvelle présidence à la tête de la CDU. La succession est ouverte, on l'a vu, et elle s'annonce compliquée. Et il n'est pas certain qu'Angela Merkel pourra rester à la tête du pays jusqu'en 2021. L'après-retraite de la chancelière marque la fin d'une époque. Elle reflète aussi les profonds bouleversement politique qui secoue l'Allemagne depuis quelques années. Les partis de gouvernement conservateurs et sociaux-démocrates s'effondrent, tandis que l'extrême droite s'enracine durablement dans le paysage. Cette semi-retraite d'Angela Merkel va aussi affaiblir sa position en Europe, à un moment où l'Union européenne traverse une crise existentielle. Nous avons posé nos micros au Novotel Mitte de Berlin et je vous représente rapidement les invités qui nous ont rejoints. Sébastien Haas, il est conseiller politique et ancien cadre de la CDU. Eric Haase est président d'une section locale du SPD à Berlin. Roman Schmidt est responsable du département d'histoire contemporaine à la fondation Heinrich Böll, qui est une fondation proche des Verts. Thorsten Knuff est journaliste. Et Pascal Thibault est bien évidemment le correspondant de RFI en Allemagne. Mais avant de reprendre notre débat, nous allons faire un détour par la rédaction du Courrier International. Bonjour Daniel Renon.
Bonjour Daniel.
Daniel, cette semaine, c'est un article publié au lendemain de l'élection régionale de Bavière, intitulé « La vieille Allemagne est entrée dans l'histoire », qui a retenu votre attention.
Alors, c'est une analyse de la Berliner Zeitung, qui est un quotidien libéral de Berlin, qui a paru après les élections régionales en Bavière, mi-octobre. Et vous vous souvenez peut-être, la CSU, le parti frère de la CDU d'Angela Merkel, a perdu ce jour-là, le 14 octobre, la majorité absolue qu'il détenait quasiment sans interruption depuis l'après-guerre. L'analyse de la Berliner Zeitung est qu'on assiste là à une propulsion dans la normalité et qu'il faut s'en réjouir. Briser un pouvoir absolu qui s'est exercé pendant des décennies sur une région comme la Bavière est un signe positif pour la démocratie.
En somme, si je comprends bien, Daniel, les électeurs veulent le changement. Ils veulent que d'autres forces qui les représentent peut-être mieux participent au pouvoir.
C'est cela. Mais la Berliner Zeitung va plus loin dans son analyse. Elle y voit le début d'une mutation en Allemagne et peut-être même une césure dans l'histoire allemande. Elle pointe un phénomène dont on parle assez peu, le fait que les vieux centres du pouvoir de l'ouest du pays n'ont guère changé depuis la chute du mur. En fait, depuis 30 ans, à l'ouest, la CSU, la CDU et le SPD continuaient globalement de se partager le pouvoir. Il y a une seule exception en 2011, lorsque les Verts ont pris la tête du Bade-Württemberg. C'était une première. Comme le dit l'éditorialiste, ce qu'on voit après ces dernières élections régionales, c'est que la stabilité des décennies post-réunification touche à sa fin. Les certitudes de la vieille RFA arrivent à leur terme.
Merci Daniel Renon, Courrier International, l'Hebdo et courrierinternational.com, le site. Eric Haase, cette vieille Allemagne qu'évoquait Daniel Renon à travers un article du Berliner Zeitung, est-ce que c'est justement cette grande coalition qui s'éternise, on en est à la deuxième, hein, qui fait qu'il est difficile troisième. De faire la troisième, mais la deuxième en continuité, qui fait qu'il est difficile de faire la différence entre les conservateurs et les sociaux-démocrates?
Justement, donc Angela Merkel est arrivée au pouvoir. La solution la plus facile, c'était de former un gouvernement grande coalition. On a parcouru en 2007-2008 des temps difficiles en Europe. Et donc, c'était vraiment une façon de calmer un peu ce jeu international en Allemagne. Après, elle a été réélue et encore une fois, elle a pris les sociaux-démocrates au lieu de prendre les Verts. Donc là, il y avait la possibilité d'un changement partiel, mais elle n'a pas fait. Les sociaux-démocrates étaient assez stupides à entrer dans ce gouvernement.
Et c'est un social-démocrate qui parle, hein, je précise pour les auditeurs qui ne le savent pas forcément.
et puis, donc voilà, tout le monde s'est posé la question de savoir quelle est la différence de nos partis politiques. Les Allemands ont même oublié qu'il y avait une période de 4 années où elle a formé un gouvernement avec les libéraux. Puisque le SPD est quasiment toujours au pouvoir, soit au niveau des Länder, soit au niveau fédéral, eh ben, les gens ne savent plus différencier. Et par contre, pour les sociaux-démocrates, il devrait être clair de prendre le pouvoir quand on est à la manœuvre, et donc pas en petit partenaire.
Alors, Thorsten Hoof, on s'est interrogé, est-ce que Angela Merkel tiendra jusqu'en 2021? Les difficultés peuvent venir de la CDU, si elle a à la tête du parti quelqu'un avec qui elle ne s'entend pas forcément très très bien, mais la difficulté peut aussi venir du SPD, qui peut remettre en cause ce contrat de coalition, car le SPD plus que la CDU perd davantage de voix dans ce système de grande coalition, qui à la fois plaît aux Allemands, je crois, mais qui en même temps supprime toute clarté entre les conservateurs et les sociaux-démocrates. On n'y voit plus très très bien.
Oui, absolument. Et il y a des discussions très très intenses au sein du SPD actuellement, si il serait sage de continuer, oui ou non, la grande coalition avec les chrétiens-démocrates. Tout à fait.
Alors, Andreas Nalle, qui est la présidente du SPD, s'interroge. Elle a déclaré, lui, on va réfléchir. Est-ce qu'on remet en cause le contrat de coalition? On va réfléchir et elle prendra une décision dans un mois, avec les militants. Vous semblez sceptique, Eric Haase.
Oui, actuellement, on a tout à perdre. Lors des dernières élections, on a obtenu seulement 20%. Actuellement, on obtiendrait 15%.
Et 20%, c'était déjà le score historique le plus bas du SPD.
Tout à fait. Et donc, actuellement, on se situerait autour de 15, peut-être 16. Et donc, on perdrait encore des sièges au Bundestag. Donc, ceux qui sont en responsabilité actuellement chez les sociaux-démocrates, Andrea Nahles, la première, ils ont peut-être un peu peur de perdre encore davantage de terrain. Donc, ce qu'il faudrait, c'est un renouveau au sein du parti, avec du nouveau personnel, avec des messages clairs, pour être de nouveau crédible auprès des électeurs.
Alors, le renouveau peut venir du responsable des jeunesses socialistes. Alors, je reprends l'expression française, un frondeur au sein du parti social-démocrate allemand. Il s'appelle Kevin Kühnert, il est tout jeune.
Oui, effectivement, Kevin Kühnert est un peu la shooting star chez les sociaux-démocrates depuis un peu plus d'un an, quasiment depuis son élection, puisqu'il est celui qui a immédiatement, dès lors qu'une nouvelle grande coalition a été discuté, qui immédiatement a pris position clairement pour s'y opposer. On a évoqué le référendum de la base du SPD des 440 000 membres sur ce contrat de coalition. Il a fait campagne à travers toute l'Allemagne pour persuader les troupes de voter contre le contrat de coalition et la nouvelle grande coalition. À la fin, il a perdu. Mais il reste un acteur de poids avec lequel sans doute il faudra compter à l'avenir. Un responsable du SPD bavarois qui ne pèse pas, il faut le dire, grand-chose, au sein du parti, proposait cette semaine qu'il prenne la tête du parti pour avoir un Bernie Sanders avec 50 ans de moins, pour avoir vraiment un SPD clairement à gauche, en attendant peut-être que la CDU soit clairement à droite.
Alors, tous les partis ne sont pas en perte de vitesse sur le champ électoral allemand. Il y a deux partis qui vont plutôt bien, l'AFD, le parti d'extrême droite, et on va y revenir. Et puis, les Verts, Roman Schmidt, qui sont en ce moment dans une forme, éblouissante. Hein. 20% des suffrages en Hesse et à peu près autant en Bavière. C'est du jamais vu pour les Verts. C'est un feu de paille ou c'est quelque chose de beaucoup plus profond selon vous?
Je crois que effectivement c'est quelque chose de plus profond. En même temps, il faut être honnête que les Verts profitent énormément du climat politique actuel en Allemagne. Donc il y a un effet de conjoncture, certes. La faiblesse des autres partis politiques joue, ça c'est très clair, on l'a vu dans les élections régionales ou des Länder. Mais il faut aussi dire que les Verts ont énormément travaillé sur eux en interne. Il y a un très grand travail entamé sur le programme du parti. Les Verts ont su calmer les querelles internes entre les courants idéologiques.
Ce qui est, entre parenthèses, une grande différence avec les Verts français.
Voilà, on peut dire ça. C'est pas à moi de juger sur l'état des Verts en France, mais en tout cas en Allemagne, pour l'instant, les courants idéologiques historiques se sont calmés un peu. Ce qui est important aussi, c'est qu'ils ont élu une nouvelle génération politique à la tête du parti, avec Annalena Baerbock et Robert Habeck, qui ont un style politique, je crois, marqué d'une très grande honnêteté, d'une probité, aussi d'une authenticité dans leurs paroles publiques. Ils ont une très bonne implantation locale, ce qui est important, notamment, on l'a vu en Bavière, aussi à Hessen.
Et ils détiennent le land du Bade-Württemberg depuis un certain temps, donc Stuttgart.
Et je dirais, il y a quand même deux points, disons, au niveau du programme qui joue, c'est beaucoup de gens ont le sentiment que les Verts peuvent présenter de grands projets pour l'avenir, ce qui est historiquement était certainement dans les années 70 le cas du SPD avec Willy Brandt. Peut-être, à certains égards, c'est en ce moment, avec une grande transformation, une nouvelle écologie, etc., le cas des Verts. Et ils le font d'une manière pas trop idéologique, pas trop dure sur la forme, mais avec un certain pragmatisme. Ce qui est important aussi, c'est le parti qui s'est positionné très clairement pour les droits de l'homme et pour la lutte contre la droitisation du pays, notamment contre la AFD.
Alors, on va évidemment parler de l'AFD, qui est évidemment importante, la montée de l'extrême droite constante depuis 5 ans en Allemagne. Thorsten Knuth, est-ce qu'on ne peut pas dire, en résumant les choses, que les Verts, c'est tendance aujourd'hui et que le SPD, c'est un petit peu has-been, comme on dit en français?
Je ne sais pas si le SPD est le has-been, mais il est évident que beaucoup de gens qui ont, dans le passé, voté pour les sociaux-démocrates s'orientent vers les Verts maintenant.
Eric Azoulay a envie de réagir. J'ai traité son parti de has-been et je comprends qu'il a envie de réagir.
Avec les sociaux-démocrates, c'est comme dans les poissons dans les océans. Et il faut en profiter tant qu'il y en a un. Et en même temps, il faut les protéger. Désolé.
Mais l'histoire des poissons, c'est les gros poissons qui mangent les petits poissons quand même. Ils sont des poissons dans la mer.
Je parle des mers sans et des océans sans poissons, en fait. Donc, la fin de la social-démocratie, ça signifierait la réinventation de la social-démocratie. Il est vrai que là, depuis des décennies, on ne cesse pas de s'affaiblir, mais ça a beaucoup à faire avec l'usure du pouvoir. On était au pouvoir avec cette petite période de 4 ans depuis l'arrivée au pouvoir de Schröder, depuis la fin des années 90. Et donc il est clair qu'à partir d'un moment, c'est l'usure du pouvoir.
Pascal Thibault, on va quand même dire un mot, et plus qu'un mot, sur l'AFD, le parti d'extrême droite, l'Alliance pour l'Allemagne, qui est présent aujourd'hui partout. Il a commencé par être présent au Parlement européen, puis il est entré dans un certain nombre de Länder, plutôt en Allemagne de l'Est, où ses positions sont très fortes. Et puis petit à petit, il a grappillé des positions dans les différents Länder à l'ouest de l'Allemagne, avant d'avoir un succès majeur l'an dernier au Bundestag, le Parlement fédéral allemand, avec environ 90 députés, ce qui en fait le principal parti d'opposition. Est-ce que les problèmes migratoires sont la seule explication au succès de l'AFD qui est constant depuis 5 ans?
C'est pas la seule explication, mais c'est évidemment une explication importante. Il faut rappeler qu'en 2015, lorsque énormément de réfugiés sont arrivés en Allemagne, l'AFD, l'alternative pour l'Allemagne, était en perte de vitesse. Et ça lui a donné à ce parti une seconde vie. Avec les succès que vous avez mentionnés. Le premier thème sur lequel le parti a fait campagne et qui lui a permis de remporter ses premiers succès, c'était surtout l'Europe, l'opposition à tout ce qui était mutualisation, l'opposition au plan d'aide pour la Grèce, etc. Ça a été le mot d'ordre de la première AFD. Avant, ensuite, après 2015, arrivée de nombreux réfugiés, une radicalisation et avec la mise en avant dans la campagne, surtout de la question migratoire. Mais il y a aussi les questions d'identité qui, je crois, expliquent aussi les votes d'un certain nombre de personnes qui se sentent un peu perdues dans ce monde globalisé, on connaît ça aussi ailleurs, et qui pensent que l'AFD apporte des bonnes solutions. Et au centre de, en quelque sorte, la personne qui incarne tout ce qu'il rejette, c'est Angela Merkel, comme on l'a pu le voir lors de meetings électoraux, notamment des législatives de 2017, à l'Est surtout, où l'AFD est particulièrement forte, et on a vu vraiment des scène de haine lors de meetings électoraux de la CDU, en marge desquels l'AFD avait largement mobilisé.
RFI à Berlin, 96.7 FM.
Carrefour de l'Europe, nous sommes à Berlin. Angela Merkel jusqu'à quand? Eh bien, nous nous posons la question. Nous sommes avec Sébastien Haas, conseiller politique, ancien cadre de la CDU, avec Eric Haase, président d'une section locale de Berlin du SPD, le Parti Social-Démocrate, avec Roman Schmidt, responsable du département d'histoire contemporaine à la fondation Heinrich Böll, une fondation proche des Verts, avec Thorsten Knuth, journaliste, et avec Pascal Thibault, correspondant de RFI en Allemagne. Alors, avec ce départ programmé, annoncé, cette pré-retraite d'Angela Merkel, est-ce qu'une page se tourne vraiment? Est-ce que l'Allemagne est en train d'entrer dans une nouvelle ère? Je regarde autour de la table, qui a envie de répondre? Thorsten Knuth, plutôt sceptique.
Oui, absolument, une page se tourne. Il y aura une nouvelle ère, mais on ne...
Mais laquelle?
Laquelle et quand? On ne sait pas encore quand, mais... Oui, une partie tourne sans doute. Beaucoup de choses vont dépendre du successeur ou de la successeur de Madame Merkel à la tête du parti.
C'est vrai qu'il y a aujourd'hui 6 partis au sein du Bundestag. C'est du jamais vu, enfin c'est depuis un an, et c'est du jamais vu en Allemagne, Sébastien Haas. Donc ça affaiblit forcément les deux grands partis que sont et la CDU et le SPD.
Se retrouvant dû au système électoral qui est entièrement mis à la proportionnelle avec 6 groupes parlementaires au Bundestag, il est difficile de composer des gouvernements à 2, peut-être un jour à 3 partis. Eric en a parlé de nos grandes coalitions entre chrétiens-démocrates et social-démocrates. C'est pas des histoires d'amour, hein. C'est des coalitions parce que tout simplement, il faut construire un gouvernement qui détient une majorité dans un parlement. On aurait bien aimé tenter autre chose après les dernières élections législatives avec les Verts et les Libéraux. Entre la CDU et les Verts, les choses avaient bien avancé. C'est les Libéraux qui ont claqué la porte, justement, parce que Christian Lindner ne voulait pas de Merkel.
Pour Merkel, c'était une histoire d'amour avec les sociaux-démocrates. Elle a adoré de gouverner avec eux. Les Libéraux, pour eux, c'était pas vraiment des partenaires crédibles. Il est aussi vrai que l'Allemagne, depuis Willy Brandt, n'a jamais été gouvernée d'une manière aussi social-démocrate que durant les années Merkel. Ce qui affaiblit bien sûr notre position des sociaux-démocrates. La tâche maintenant de la CDU, c'est de s'occuper de la droite. Donc en Jan Spahn, il doit prendre la lutte avec l'AfD, et à gauche, nous on s'occupe après du reste.
On a compris que les souhaits des uns et des autres, que la droite s'occupe de la droite, que la gauche s'occupe de la gauche.
Le drame, c'est qu'on risque après de se retrouver au Bundestag avec 6 groupes parlementaires, avec des pourcentages qui auront changé un peu à gauche et à droite, en étant à la fin toujours obligé à former un gouvernement de pro-européens et de démocrates.
Alors cette histoire peut peut-être, si elle se produit, faire le bonheur des Verts et aussi de l'extrême droite. Pascal Thibault, je voudrais quand même faire un petit point sur quelles sont aujourd'hui les attentes des Allemands en 2018. Si on regarde l'Allemagne, c'est un pays prospère, c'est la première économie de l'Union européenne, le chômage y est très très faible, la stabilité politique est relativement grande, les Allemands sont plutôt heureux. Qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui en 2018? Alors, c'est pas une question facile. Surtout, j'ai pas vous demandé d'y répondre en 30 secondes, peut-être un peu plus, mais est-ce que c'est la peur de l'immigration, la peur de l'islam, la tentation du repli identitaire? Quelles sont les attentes aujourd'hui des Allemands? Est-ce que c'est un peuple qui finalement a confiance dans son pays et dans son avenir, ou est-ce que c'est un peuple qui finalement s'interroge sur son avenir?
C'est vrai que globalement, si on interroge les Allemands sur la situation personnelle, il y a une très grosse majorité qui disent qu'ils sont satisfaits. En même temps, on est dans une société qui est plus divisée qu'elle ne l'était dans le passé, avec une fracture sociale, avec des gens qui sont sinon exclus, en tout cas qui sont les perdants de ce modèle économique, même si effectivement, globalement, le pays fonctionne bien. Mais ça ne suffit pas, comme on l'a vu en Hesse ou en Bavière, deux régions avec des bons résultats économiques,
très prospères,
où pourtant les gouvernements au pouvoir, les gouvernements régionaux au pouvoir, ont été sanctionnés. Donc visiblement, il y a d'autres attentes des électeurs. Effectivement, il y avait un rejet du gouvernement national, mais il y a aussi certainement des interrogations à se poser pour les gouvernements régionaux. Les peurs que vous avez évoquées concernant les réfugiés, etc., elles existent, c'est vrai, mais elles sont évidemment, comme on l'a déjà dit, plus importantes chez les gens qui sont séduits par l'alternative pour l'Allemagne, le parti d'extrême droite. En revanche, si on interroge les gens sur ce qui les interpelle, sur les sujets dominants, et c'est ce qu'ont fait les sondeurs durant les deux dernières élections régionales, on voit que ce thème arrive plutôt un peu plus bas dans la liste des priorités et que les gens mettent en avant l'école, l'éducation, les problèmes de logement, de plus en plus dramatiques en Allemagne avec des loyers que les gens ne peuvent plus payer, les problèmes d'infrastructure, et ça, ce sont des choses qui arrivent en avant. Mais sanctionner des gouvernements dans des endroits où la situation est plutôt positive, on voit qu'il y a aussi d'autres choses. Peut-être que les gens veulent aussi une vision, veulent aussi qu'on leur dise où on va et que ça leur a manqué aussi ces dernières années.
Alors, Romain Schmidt, vous êtes un historien. Comprendre le passé pour voir l'avenir, à cette question, quelles sont les attentes des Allemands, vous qui représentez un peu les Verts à travers cette fondation Heinrich Böll proche des Verts? Est-ce que vous sentez peut-être un peu mieux que les partis traditionnels? Quelles sont les attentes des Allemands? Je rappelle que les Verts ont connu une très grande percée électorale au cours des deux dernières élections régionales ce mois-ci et le mois dernier.
Je crois que les résultats là qu'on voit reflètent quand même qu'il y a un besoin d'une vision, comme vous avez dit tout à l'heure, je dirais un esprit de modernisation à la fois décomplexé, mais qui tient compte des grands défis qu'on rencontre tous, comme la question écologique, évidemment, mais d'autres comme le logement, etc. Donc, pour moi, c'est un peu en ce moment comme si les grandes parties ne peuvent réussir désormais qu'à condition de s'allier aux Verts, qui leur infuse des idées et du courage. Et les conservateurs et les sociaux-démocrates semblent vouloir profiter des Verts pour pousser leur parti dans la direction qu'ils souhaitent. Alors, donc, ça, pour moi, c'est l'héritage et l'avenir du libéralisme en Allemagne. Et ce sont les Verts, en ce moment, qui ont pris cette place, qui est une place très délicate, non seulement pour les Verts, mais pour l'avenir de l'Allemagne tout entière.
Roman Schmitt, j'ai bien compris que, quel que soit le gouvernement, il faudrait qu'il y ait une perfusion, les Verts en perfusion, que ce soit avec la CDU ou le SPD. Éric Haase, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, parce qu'on le disait il y a environ 25 ans, qu'il y avait deux Allemagnes, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, est-ce qu'il y a toujours ces deux Allemagnes ou pas? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que les Allemands, petit à petit, se ressemblent ou pas? Et je pose la question ici à Berlin, à Mitte, qui est anciennement Berlin-Est, mais évidemment dans cette grande capitale qui est aujourd'hui Berlin.
Est-ce que les deux Allemagnes continuent d'exister? Je ne sais pas. Il y a bien sûr des différences économiques encore très claires. Les gens dans les zones où il n'y a plus rien, où il n'y a plus de bus, il n'y a plus de poste, il n'y a plus de boucherie, quoi que ce soit dans leur village ou petite ville, ils se sentent laissés à l'écart. Et ça, c'est plus vrai pour des zones à l'est que pour des zones à l'ouest. Ceci dit, vous prenez certaines villes, même dans le bas de Württemberg, où l'AfD a gagné un siège en direct lors des dernières élections régionales. Non, il y a pas une Allemagne de l'Est nazie et une Allemagne de l'Ouest avec l'ancien système politique, non.
Pascal Thibault, d'ici à 2021, quel peut être, si évidemment Angela Merkel arrive à se maintenir au pouvoir à la tête du pays jusqu'en 2021, quelle peut être la place de l'Allemagne en Europe? Elle risque de s'affaiblir énormément.
Sont les craintes qu'on a pu entendre depuis le début de la semaine qui s'est écoulée dans différentes capitales et aussi à Bruxelles, la crainte d'une perte d'autorité de l'Allemagne et d'Angela Merkel sur la scène européenne, dans la mesure où elle serait affaiblie, dans la mesure où elle serait une lame duck, comme on dit en anglais, son départ étant programmé à...
C'est-à-dire un peu le canard boiteux.
Voilà. C'est une interprétation possible. On a vu que le commissaire européen allemand, Günther Oettinger, s'est félicité du fait qu'elle veuille rester en poste juste en 2021, en raison des grands défis que l'Europe a à surmonter, le Brexit, les élections européennes à venir, les difficultés avec l'Italie, et beaucoup d'autres sujets encore. On pourrait aussi avoir, peut-être, pourquoi pas, une analyse peut-être plus positive en disant, n'étant plus à la tête de la CDU, n'ayant plus la nécessité de sa réélection, elle est peut-être délivrée d'un certain nombre de contraintes qui peuvent peut-être lui laisser la main libre plus facilement sur les dossiers internationaux et européens sur lesquels elle pourrait se concentrer. C'est une possibilité, mais il faut rester prudent. On sait que sur un certain nombre de décisions européennes, elle a besoin parfois, lors de votes importants, du Bundestag, du Parlement, et que sans doute une majorité plus moins Merkel au fil que dans le passé pourrait être plus difficile à convaincre, par exemple, notamment sur lorsqu'il s'agit de mettre à contribution l'argent allemand.
Est-ce qu'il y a, d'un point de vue allemand, le risque que le leadership européen soit perdu par l'Allemagne au profit d'Emmanuel Macron? Thorsten Knuth.
Je dirais même que Mme Merkel a déjà perdu énormément d'influence et de pouvoir sur la scène européenne depuis un an déjà. C'est étroitement lié avec le mauvais score qu'elle a eu à l'occasion des élections de 2017. Madame Merkel, depuis des mois déjà, n'est plus en mesure d'imposer sa volonté aux partenaires européens.
On peut aussi dire qu'elle freine. Elle freine.
Voilà,
Macron
absolument,
propose,
voilà,
Merkel
absolument,
freine.
Et elle n'est plus, depuis des mois déjà...
Elle freine et en même temps, il faut aussi voir la direction dans laquelle l'Europe évolue, non? Donc il y a les deux côtés. C'est vrai qu'elle est assez faible, je dirais. Son bilan sur le plan européen est plutôt faible. Puisque je suis ici pour les Verts, je dirais que le lobby de l'industrie automobile en Allemagne continue à être énorme et franchement rétrograde sur le plan européen. Donc si on regarde des politiques européennes, je ne sais pas s'il y aura de très grands changements après Merkel, on verra ça. Mais sur le plan de la stabilité européenne, c'est certainement un danger et ce n'est pas uniquement à cause d'Angela Merkel, mais aussi à cause des évolutions en Autriche, en Hongrie, en Pologne,
évidemment,
etc.
En Italie. Sébastien Haase, on peut noter que Friedrich Merz, possible successeur d'Angela Merkel, a déclaré lors de cette première conférence de presse que les propositions d'Emmanuel Macron pour renforcer la zone euro auraient dû retenir davantage l'attention des Allemands.
En tant que bon franco-allemand, je ne vais pas le contredire. l'histoire le montrera, on a vraiment eu un coup de malchance après ça, que l'arrivée de Macron, avec des idées de Macron qu'il a développées, tombe grosso modo dans une période où l'Allemagne est rentrée en campagne, a eu un mal de chien à composer un gouvernement. On en a parlé, il y a eu des négociations de plusieurs mois avec les libéraux et les verts pour ensuite rentrer dans un processus de construction de coalition avec les social-démocrates. Tous les partis avec lesquels on a parlé, c'est des partis pro-européens, n'oublions pas ça non plus. Mais c'est vrai qu'on a assisté à Berlin depuis les élections de septembre dernier à un nombrilisme dont je ne jetterai même pas la pierre à quelqu'un de précis, mais peut-être même au fait que le système politique allemand est complexe et que avec la composition du Bundestag, tant qu'on le voit maintenant, on met plus de temps à régler nos affaires internes avant de pouvoir réagir. Donc en effet, je comprends que du point de vue de Paris, on pouvait être déçu de voir jour pour jour l'avancée des pourparlers, les nouvelles images dues sur le balcon, M. Lindner qui était... Bon, bref...
Et donc tout ça, Sébastien, ça ne changera pas avec le successeur d'Angela Merkel, quel qu'il soit à la tête du parti, et tôt ou tard à la tête de la chancellerie. Merci à tous les cinq d'avoir été au Carrefour de l'Europe, ici à Berlin, au Novotel Mitte. Réalisation Marc Fichet avec Daniel Renon du Courrier International. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe et tous les autres qui l'ont précédé, RFI.fr, rubrique émission, ou l'appli RFI Pure Radio. On reste en contact via Facebook et Twitter, Daniel Desescal, où que vous soyez, à Berlin, à Paris, ailleurs en Europe, ou dans le reste du monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mais tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.